Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que, quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des Super Mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Chaque année est organisé l'événement caritatif du Podcaston. L'occasion pour nous, podcasteurs, de proposer un épisode un petit peu spécial qui met en avant une association, une cause qui nous tient à cœur. Alors évidemment, quand on m'a proposé de participer à cette jolie initiative, j'ai répondu un grand oui. Super Mama avait à cœur de mettre en avant une association qui œuvre pour les femmes, pour les mères. Je me suis donc associée à l'association Maman Blues, qui est une association de soutien, d'échange et d'information autour de la difficulté maternelle. Et oui, bien que j'essaye de toujours partager du positif autour de la maternité, il ne faut pas passer à côté de sujets essentiels et difficiles comme celui de la difficulté maternelle qui touche beaucoup de mamans. Lorsque la réalité de ce nouveau rôle de mère est bien loin de ce qu'on pouvait imaginer, ou encore qu'on se fait rattraper par une charge mentale énorme, un surmenage global ou un manque d'écoute crucial, on plonge rapidement dans l'isolement, la culpabilité et la peur d'être seule. C'est d'ailleurs ce que Marie, mon invitée pour cet épisode hors série, est venue déposer au micro de Super Mama. Marie est malheureusement passée par là et a connu, après la naissance de son troisième enfant, une dépression du postpartum violente et terrassante. Alors comment survivre à cette épreuve et faire face pour continuer d'élever ses trois enfants ? Vers quelles personnes ressources peut-on se tourner pour essayer d'aller mieux ? Quelles sont finalement les aides et les solutions qui s'offrent à nous pour guérir ? C'est justement grâce à l'aide de professionnels de santé compétents, à un travail sur elle-même, puis grâce à son investissement pour l'association Maman Blues, qu'elle peut affirmer aujourd'hui avoir enfin sorti la tête de l'eau et qu'elle accompagne à son tour d'autres mamans dans le brouillard. Merci beaucoup Marie d'être venue, merci à l'association Maman Blues pour leurs actions du quotidien, et merci évidemment au podcaston d'exister. Et puis, bien sûr, merci à vous, auditrices de Super Mama, pour votre écoute fidèle et bienveillante. Attention, si vous vous sentez en détresse, isolée, coupable, triste, ne restez surtout pas seule. Rapprochez-vous d'associations comme de l'association Maman Blues pour trouver soutien et réconfort. Coucou Marie, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Je te reçois à l'occasion d'une occasion un petit peu particulière, c'est pour le podcaston. Donc c'est un regroupement en fait de différents podcasteurs qui mettent en avant une association qui leur tient à cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de ton histoire et de l'association Maman Blues. Mais avant ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ?
Oui, bonjour. Je suis super contente de participer à l'émission avec toi. Donc moi, c'est Marie et j'ai 42 ans maintenant. J'ai trois enfants. J'ai fait des études de journalisme et je travaille dans la communication.
D'accord. Et tu habites en Belgique, c'est ça ? Tu
es belge ? Oui. J'ai habité pendant des années à Bruxelles et ici, je suis en Wallonie. Donc, c'est la partie francophone de la Belgique.
Ok, super. Quel âge ont tes enfants, Marie ?
Alors, le plus grand, il a 12 ans. Ouais. C'est Antonio. J'ai un petit garçon qui s'appelle Noah, qui a 9 ans maintenant. Et alors, la petite dernière, c'est Maya, qui a 5 ans. Et c'est pour elle que j'ai eu cette fameuse dépression postpartum. Pour la troisième, étonnamment.
Et oui, ouais, étonnamment, c'est vrai. Alors justement, avant qu'on parle de cette troisième grossesse, de cette troisième maternité qui a été un petit peu chamboulante pour toi, comment se sont passées l'arrivée de tes deux premiers fils dans l'ensemble ? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, voilà, comment tu t'es sentie, que ce soit pendant la grossesse, pour l'accouchement, mais aussi une fois qu'ils étaient là dans ta vie, comment t'as appréhendé leur arrivée ?
Moi, j'ai toujours voulu des enfants. Depuis toute petite, je jouais à la poupée. J'ai toujours eu. C'était pour moi, voilà, quelque chose dans lequel je me projetais de manière très positive. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais avoir des enfants. Et donc, quand j'étais enceinte, j'étais vraiment super contente. D'ailleurs, pour les trois grossesses, j'ai eu la chance, parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais d'avoir vraiment les grossesses où je me sentais vraiment bien. Donc, que ce soit physiquement où mentalement, j'étais vraiment comme sur un petit nuage, vraiment. J'étais
Ouais, super.
très, très contente de les avoir arrivés. Pour le premier, comme j'ai eu une sciatique sur la fin de la grossesse, c'était un peu plus compliqué parce que je n'arrivais plus à marcher. Il est né post-terme et donc finalement, l'accouchement s'est assez mal passé parce que du coup, ça s'est transformé en césarienne d'urgence. Et
Ah
donc,
oui,
je pense
d'accord.
que c'est des petites choses, enfin des petites choses. Des accouchements comme ça qui sont parfois un peu brutaux, violents, auxquels on s'attend pas, puisque quand tu passes une grossesse un peu de rêve, tu crois que tout va bien. Et en fait, quand les derniers jours se passent mal, l'accouchement se passe mal, le stress, les douleurs que, voilà, une césarienne d'urgence, les jours d'après, on a très très mal, on sait pas marcher, on sait pas s'occuper de son bébé. Je crois que tout ça, c'est des petits grains qui viennent déjà un petit peu fragiliser la maman. Et donc moi, comme c'était mon premier, j'ai très mal vécu l'accouchement les jours d'après, de ne pas pouvoir m'occuper de lui. Mais par contre, une fois que j'ai été mieux physiquement, il était tout seul, c'était un enfant très facile, j'ai su aller de l'avant. Donc c'est-à-dire que la vie l'a emporté, la joie d'être avec lui l'a emporté, j'avais des amis, la famille. Et donc du coup, je n'ai pas eu du tout de difficultés postpartum, si ce n'est les premiers jours
D'accord.
après l'accouchement.
Ouais, t'as
Donc.
quand même aimé, on va dire, ton rôle de mère dès les premiers jours
Tout
ou
à
premières
fait.
semaines. Tu
Tout
t'es
à
sentie
fait.
assez bien et
Tout à
confiante.
fait. Oui, tout à fait.
D'accord, ok.
Et pour le deuxième, là, j'avais très, très peur de l'accouchement. Donc, la grossesse, de nouveau, j'étais très, très contente. Surtout qu'on l'a attendu un petit peu plus longtemps. Il s'est fait attendre un petit peu plus. Donc, on était
Ah.
d'autant plus contents qu'il arrive.
Ouais.
Et puis, voilà, l'accouchement s'est fait par voie basse parce que j'avais évidemment très, très peur que ce soit de nouveau une césarienne. Parce que ça, c'est un peu le problème. Actuellement, ben, très souvent, quand une maman accouche pour la première fois par césarienne, les médecins ont tendance à lui dire qu'il y a de grandes chances qu'elle ne fasse que des césariennes par la suite, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est d'où
Ouais.
l'importance, en fait, de travailler ça, parce que moi, j'avais tellement peur de ça, que du coup, j'ai vraiment fait des séances de kinésiologie, essayer de comprendre, essayer d'un peu moi-même me mettre dans la mentalité que c'était pas une fatalité d'accoucher par césarienne, que si ça devait se faire, ben, c'était pas si grave, mais que ça pouvait aussi bien se passer par voie basse. Ce qui était
Génial.
le cas, donc il est né par voie basse. Par contre, là, c'est vrai que comme le premier, on me l'a déposé tout beau, tout propre, tout lavé, puisque c'était une césarienne. L'arrivée du deuxième, où on me l'a sorti comme ça, plein de sang en sortant de mon ventre, alors que après un accouchement, je ne l'ai pas spécialement bien vécu. Donc, ce n'est pas du tout comme dans les films où on est tout content. En fait, non. Je crois que j'avais eu peur jusqu'au bout que ce soit une césarienne. Je n'ai pas trouvé le feeling tout de suite. Et après, par contre, dans les heures qui ont suivi, le lien est venu. Et donc, j'ai envie de dire à toutes les mamans, le lien, ce n'est pas obligé que ça se fasse de manière instantanée.
C'est
C'est-à-dire
vrai.
que il y a les 9 mois, on idéalise son bébé, et puis il y a l'accouchement qui est quand même très physique, qui est très marquant, ça remue beaucoup de choses, que ce soit émotionnel, du stress, de la souffrance physique. Enfin, souvent, on oublie de dire à quel point un accouchement, c'est quand même pas rien du tout,
Ouais,
à
c'est clair.
plein de niveaux. Et donc, du coup, voilà, il faut pas s'en faire si on ne sent pas une connexion instantanée au bébé. Parfois, ça l'est. J'ai des amis qui ressentent ça très fort au moment où on met le bébé sur elle. Moi, c'est venu dans les minutes, les heures qui ont suivi. Ça n'a pas été instantané. Instantané, j'ai plutôt eu un sentiment où c'est bizarre, qu'est-ce qu'on vient m'apporter là? Je ne le reconnais pas. Enfin, bon, bref. Donc, je pense que ça, c'est très personnel d'une femme à l'autre et qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir pour ça. Il faut parfois se donner un peu le temps. Et puis, c'est pour ce deuxième postpartum-là, j'ai quand même été très faible, j'avais perdu beaucoup de sang. Donc, même si c'était par voie basse, le postpartum n'a pas été facile dans les jours qui ont suivi. C'est
Ouais.
un petit garçon qui a des problèmes de santé au tout début, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, etc. Donc ça
Ah
n'aide pas non plus pour le congé de
oui.
maternité. C'est-à-dire que c'est un deuxième, on est fatigué, il pleurait beaucoup plus que le premier, j'étais plus fatiguée. Donc voilà, le postpartum n'a pas été facile. Mais par contre, le lien avec lui, c'est bien passé et je pense que j'ai su garder la tête hors de l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si on a chacun une limite, une résistance aux épreuves aussi qu'on peut accepter ou pas. Et j'ai l'impression que pour le premier, c'était l'accouchement qui était très, très traumatisant pour moi, mais je m'en suis remise, c'était le premier, il était facile. Le
D'accord.
deuxième, Ben, il a des problèmes de santé, il était moins facile, mais de nouveau, j'en avais deux, j'étais aidée, ça a été. Mais alors, c'est pour la troisième où c'est comme si on est déjà à sa limite, on n'a plus en fait de ressources. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour la troisième parce que là, l'accouchement s'est plutôt bien passé. Donc, c'est le seul accouchement, ben, c'était nouveau par voie basse. Mais c'était cette fois-ci sans péridurale parce que j'étais tellement
Ah
bien et zen que j'ai dit, bon, ben, on va la faire cette fois-ci sans péridurale. Comme ça, j'ai fait les trois
T'auras eu
accouchements.
trois
Hein?
accouchements
Là,
plutôt bien
c'est
différents.
trois formats différents. Et ce qui s'est passé, de nouveau, on en revient à ce problème de quand on a eu pour le premier une césarienne, c'est que les médecins gardent en tête que ça peut dégénérer en césarienne. Si jamais l'accouchement est trop long, ça peut tourner en césarienne. Et donc, ça se passait très bien au niveau de l'accouchement, mais ils ont décidé d'accélérer les choses en injectant de l'ocytocine pour provoquer les choses et accélérer les choses. Et là, en fait, une piqûre d'ocytocine sans péridurale, ça a créé chez moi quelque chose, je dirais une douleur inhumaine, en fait. C'est une douleur qu'on ne sait même pas. Je pense que je suis devenue comme un animal. Je n'avais plus de cerveau. En fait, le médecin a d'ailleurs été très surpris parce qu'elle s'attendait pas à ce que mon col s'efface d'un coup avec la piqûre. Donc, en fait, j'ai très fort réagi au produit. Donc, elle avait apparemment pas mis une énorme dose. Donc, elle s'attendait à ce que ça ouvre le col. Mais là, en fait, mon col s'est complètement effacé. Donc, je suis passée d'une douleur tout à fait gérable parce que j'avais fait des cours avec mon mari de kiné, respiratoire. Il me massait, donc voilà, j'étais sans péridurale, mais la douleur était gérable. Mais en fait, d'un coup, avec cette piqûre, la douleur n'a plus été gérable, et donc là, j'ai hurlé. Ça a été, en fait, j'entendais qu'on disait on la perd, mais je crois qu'on ne disait pas ça, qu'on perdait physiquement. Je crois que j'ai perdu la tête, c'est-à-dire que c'est une douleur qui est telle. Ben que je voulais plus du bébé, en fait. J'hurlais qu'on m'arrache le bébé ou qu'on me rentre le... Je ne savais plus gérer la douleur. Et
Oui,
donc,
c'était insupportable.
voilà, c'est une douleur qui n'était pas humainement supportable. Je n'ai jamais vécu ça. Mais donc, voilà, c'est arrivé. Je crois que c'est le fait que ça arrivait brutalement. Je pense que quand la douleur de l'accouchement, au moment de l'expulsion, c'est toujours très, très douloureux. Ça, c'est certain. Mais quand ça se fait progressivement, le corps s'adapte, ou en tout cas la tête et le cerveau suivent et s'adaptent à cette douleur. Quand ça arrive d'un coup, là, je crois qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé chez moi qui n'a pas été géré du tout. Par contre, une fois qu'elle est née, donc une fois que ça a été terminé, qu'elle est née, là, par contre, les 2 semaines qui ont suivi ont été très, très bien. Et donc, c'est ça que je veux dire. Maman, c'est que quand on parle de dépression postpartum, ça n'a rien à voir avec le baby blues des premiers jours à toutes. C'est-à-dire que après 2, 3 jours après l'accouchement, il y a la fatigue, il y a la chute des hormones, il y a le retour à la réalité après la maternité où on se retrouve avec son bébé, etc. Et là, on a tout un petit moment, un petit creux où on a facilement les larmes qui coulent, etc. Et ça passe. Et ça, il faut se faire entourer, il faut en effet avoir des personnes pour nous aider, préparer un petit repas, se reposer, et ça passe tout seul, j'ai envie de dire.
Bien sûr.
Par contre, la dépression postpartum, très souvent, elle arrive après 2 ou 3 semaines. Donc, c'est après. Donc, ce n'est pas le baby blues, c'est vraiment quelque chose qui vient après et qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que le baby blues lié uniquement à la chute des hormones. Donc moi, pour ma fille, voilà, j'étais super contente après 2 petits garçons d'avoir une petite fille, de nouveau sur mon petit nuage. Comme je n'avais pas eu de péridurale, j'ai marché tout de suite, j'ai pu m'occuper d'elle tout de suite, ce que je n'avais pas pu faire pour les autres. Et donc voilà, pendant 2 semaines, j'étais sur mon petit nuage avec mes 3 enfants. Je faisais plein d'activités comme si je n'avais jamais accouché. Voilà, en pleine
Ouais, tu
forme.
te sentais en forme, quoi.
Tout à fait. Et avec un lien très très fort avec mon bébé. Donc tout se passait bien. Pourtant, on faisait des travaux à la maison. Donc j'avais 3 enfants. On aurait pu dire que
Ouais, c'est
c'était quand
énorme,
même pas
bien sûr.
facile. Mon mari voyage beaucoup. Donc j'étais souvent seule avec les trois. Mais voilà, tout allait bien. Et en fait,
D'accord, et à partir de quand, justement, il y a eu ce point de bascule?
après 2 semaines, c'est un peu arrivé d'un coup. C'est ça qui est aussi frappant, c'est que c'est après 2 semaines où j'ai commencé vraiment à me sentir angoissée, à me sentir envahie par 1000 pensées dans la tête. et ne plus savoir où donner de la tête. C'est-à-dire que je commençais quelque chose et j'arrivais pas à le terminer. Donc
D'accord.
je lançais une machine, je mettais le linge dans la machine et puis je me disais, ah, mais non, il faut d'abord que j'aille terminer le lave-vaisselle. Et puis je partais à
OK.
la cuisine, je faisais le lave-vaisselle et je faisais pas partir la machine. Et puis, ah, je vais remplir les boîtes à tartines. Et je commençais chaque chose. C'est comme si je me sentais complètement dépassée, comme une poule sans tête. C'était vraiment ça.
D'accord. Ah
Je
oui,
pensais à
d'accord.
tout ce qu'il fallait faire. C'est comme si tu te sens complètement dépassée. Il y a trop. La tête ne suit plus. Et du coup, tu essayes de faire, mais en fait, tu fais tout à la fois. Tu fais plus rien dans l'ordre. Je n'arrivais plus à me reposer, à être calme. Et donc voilà, même pour faire des courses, choisir tel paquet de biscuits plutôt qu'un autre, tout m'a semblé compliqué. Je
OK.
n'arrivais pas à choisir, est-ce que je dois prendre ça ou ça? Donc, je mettais sur le même pied les décisions que je vais prendre. Il y avait quand même des grosses décisions à faire pour les travaux qu'on faisait pour accueillir la petite. Donc, c'était un aménagement dans le grenier où il fallait choisir des matériaux. Ça me
Ouais.
paraissait aussi compliqué que de choisir en 2 bouteilles de lait au supermarché. Tout était compliqué sur le même pied. C'est
Ah
comme
oui,
si je
d'accord.
n'arrivais plus à voir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout devient compliqué, source de stress, et donc on n'arrive à plus profiter de rien en fait. C'est
Ouais,
vraiment comme ça que ça
j'imagine.
commence.
D'accord, et à partir de quand ça t'a inquiété ça? Est-ce que tu en as parlé déjà à ton mari en te disant, enfin en lui disant, regarde, j'arrive pas à prendre de décision? À partir de quand tu t'es dit, non mais attends, là, Marie, ça craint, ça dure?
Ah, je
Comment
l'ai
ça
dit
s'est
tout de
passé?
suite. Je l'ai
Ouais,
dit tout de
ok.
suite. Donc, en fait, il y a des mamans qui ont du mal à le dire. Moi, j'ai eu la chance que ça, en fait, j'ai très vite su ce que c'était une dépression postpartum. J'avais eu
Ah.
3 enfants, donc je savais très bien que c'était pas le baby blues, parce que je l'avais eu pour Maya 2, 3 jours en rentrant à la maison et puis c'était passé. Donc, je savais que c'était autre chose, que c'était beaucoup plus fort. Donc, tout de suite, je l'ai dit à ma maman, je l'ai dit à ma belle-mère qui était là à ce moment-là. Et ma belle-mère, qui est italienne, elle, tout de suite, elle me dit, ah non, Marie, il n'y a pas de dépression, il faut manger et dormir. Ce qui est vrai en soi. C'est-à-dire que quand c'est en effet un baby blues ou un coup de mou,
Oui.
le mieux, c'est manger, prendre soin et dormir. Ça, c'est
Oui.
certain. Le problème, c'est qu'une dépression comme ça ne suffit pas. Déjà parce qu'on ne sait plus dormir, ou en tout cas très mal, parce qu'évidemment, on pense à tout ce qu'on doit faire, à tout ce qui ne va pas. Manger, ben, on perd l'appétit. Et donc, en fait,
D'accord.
ça ne suffit pas. Et donc, heureusement, j'ai eu la chance que ma maman, elle, et c'est à ce moment-là qu'elle me l'a dit, qu'elle avait fait une dépression postpartum pour moi à l'époque.
Elle t'en
Et donc,
avait jamais parlé
non,
auparavant.
non.
Ah
Et je
oui,
crois
c'est
qu'il y a
fou.
beaucoup de femmes qui n'en parlent pas.
Hein.
À l'époque, je pense en plus qu'on en parlait encore moins.
Eh oui.
Les femmes étaient parfois, bah voilà, elles s'étaient retrouvées seules avec moi, dans une ville où elle n'avait aucune connaissance, et donc elle a dû gérer ce mal-être seule. Ici, on a la chance d'avoir heureusement des professionnels qui sont formés pour ça,
Bien sûr.
et donc on en parle. Et voilà, le podcast d'aujourd'hui en est vraiment la preuve, c'est que c'est un sujet dont on essaye de parler de plus en plus. Et donc voilà, donc moi j'ai très vite dit ça ne va pas. Le gros problème, moi, qui a été, donc ça n'a pas été de dire ça ne va pas, ça a été de trouver de l'aide. C'est-à-dire que très vite, on m'a orientée vers une psychologue,
Oui.
mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que, de nouveau, les psychologues, je pense que ça dépend aussi de la rencontre. Il faut tomber sur la personne avec qui ça colle, avec qui on a un feeling, qui se rend compte de la problématique, parce que moi, le feeling
Bien
était assez
sûr.
bon, le feeling était bon, mais je pense qu'elle a vu qu'elle avait en face à elle quelqu'un d'assez équilibré, qui avait une situation correcte, avec un mari aimant, soutenant, une famille soutenante, et je pense
Oui,
qu'elle a
un cadre stable finalement.
oui, et je pense qu'elle a minimisé, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, ben, ça va aller. Vous êtes bien entouré, vous venez chez moi et ça va aller. Le gros problème, c'est que à l'intérieur, je n'allais pas bien du tout. C'est-à-dire que j'arrivais encore à me lever à ce moment-là, parce qu'il y a eu un moment où ce n'était plus possible. Mais donc à ce moment-là, je savais me lever, je savais plus ou moins faire bonne figure. Mais à l'intérieur, c'était le capharnaüm, le chaos, et je
Alors,
mourais,
c'est-à-dire que tu avais des
mort.
pensées noires, tu étais triste,
Oui,
angoissée. Qu'est-ce que tu pensais
c'est surtout
concrètement?
de l'angoisse. C'est surtout des grosses angoisses, mais qui prennent toute la place. Donc, il n'y a plus la place pour rien d'autre. Et alors, je sais que le mot que je tapais le plus souvent sur Internet, c'était désespoir. Un mot que je n'avais jamais, jamais connu. Parce que j'étais toujours quelqu'un de très positif, de très voilà, joyeuse. Je n'avais jamais vécu ça. Et c'est le mot désespoir. J'avais besoin de savoir si d'autres gens vivent ça et comment on sort de ça. Et j'ai eu la chance de voir certains témoignages de gens qui avaient vécu des dépressions où je me suis reconnue. Donc, c'est ça qui m'a aidée. C'est pour ça que l'association est vraiment importante. C'est que je crois, quand on vit ça, on a besoin de se rendre compte qu'on n'est pas le seul à vivre ça, que des gens l'ont vécu et que des gens s'en sont sortis. Parce qu'on sait qu'une dépression, on peut très bien ne pas s'en sortir. Le
Bien
nombre de
sûr.
mamans qui se suicident ou qui en viennent à faire des drames d'infanticide, c'est des mamans qui sont dans ce désespoir et qui n'ont pas cette lumière au bout du tunnel. Moi, c'est comme si j'étais dans un tel désespoir, mais j'ai eu la chance d'être tellement bien entourée que j'essayais toujours de chercher cette lumière au bout du tunnel. Mais quand on ne la trouve pas, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment comme si le champ même temporel se rétrécit. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle, ma maman me téléphonait, elle me disait, mais Marie, est-ce que tu veux que je prenne les enfants pendant les vacances de carnaval pour que tu te reposes? Je ne sais déjà pas si je vais survivre à la seconde qui vient. Chaque respiration est compliquée. Comment se dire, qu'est-ce que
Envisager
je vais faire les
un
vacances de
futur.
carnaval? Déjà, une journée, c'est déjà impossible. Donc, il faut, en fait, le champ temporel est complètement différent. C'est là une lutte de chaque minute. Ce n'est pas du tout. On n'arrive plus à réfléchir en termes de jours ou de semaines ou de mois.
Ouais, je comprends.
Et donc, c'est ça qui était compliqué. Ça a été un tel point que ma maman m'a emmenée un jour aux urgences psychiatriques parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que je n'arrivais plus. En fait, la petite pleurait et je n'avais même pas le courage de l'allaiter alors que, bon, elle dépendait de moi exclusivement pour.
Pour manger,
À ce moment-là, et donc elle avait 2 mois, et là elle m'a dit ça va pas, il faut. Et donc on a téléphoné, en fait c'était ma kiné. Les kinés, c'est aussi des chouettes contacts, les kinés postnatales qu'on rencontre souvent après l'accouchement. Ça, ce sont des personnes aussi qui peuvent nous aider. Donc elle, c'est elle qui nous a dit, Marie, si vraiment ça va pas, si tu sens que c'est vraiment une dépression postpartum, on reste pas seul avec ça et donc va aux urgences psychiatriques. Elle m'a donné voilà ce nom-là. Par contre, moi, j'ai eu vraiment pas de chance avec ça. C'est que j'ai vraiment été très très mal reçue dans ces urgences-là. De nouveau, c'est là que j'en reviens au fait d'être bien conseillée, bien aiguillée. C'est-à-dire que tous les professionnels en santé mentale ne sont pas formés à ce type de problématique et à une dépression postpartum. C'est pour ça qu'à l'association, on a vraiment tout un fichier d'adresses, que ce soit en France ou en Belgique, où justement les mamans qui ont eu des bons contacts avec des professionnels formés peuvent indiquer ces contacts-là. Et donc ça permet d'éviter aux mamans de passer par la plupart du temps ce que nous on a vécu, c'est-à-dire de devoir prendre contact avec parfois 2, 3, 4, 5 médecins avant de tomber sur celui qui va vraiment pouvoir nous aider.
Oui, on peut perdre espoir et même le courage hein, de se faire suivre, accompagner à force de ne pas trouver des personnels, enfin du
Tout à fait.
personnel compétent face à
Oui.
notre problématique.
Tout à fait. Moi, la seule chose, c'est que le fait que j'ai été à ces urgences-là, où on m'a remballée chez moi en me disant que ça allait passer et que j'aurais toujours 3 enfants et qu'il fallait que je me botte les fesses, en gros. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que du coup, ça a permis à mon mari de réaliser l'ampleur du problème. Donc, le fait
D'accord, il se rendait pas trop compte, tu crois,
non,
jusque-là?
non, on se disputait beaucoup, il trouvait que je devenais chiante pour ne pas dire aux enfants,
Évidemment.
j'étais un peu hystérique, je criais beaucoup, et c'est vrai, je perdais pied, et donc j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas agréable. Moi, je suis quelqu'un qui pleure très difficilement, et donc mon anxiété ne passait pas par des larmes, ça passait par des énervements, et donc voilà. Donc lui, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rendu compte que c'était pas un caprice, que c'était pas qu'il y avait un véritable problème et que j'allais avoir besoin d'aide. Donc ça a tout changé, j'ai envie de dire, parce que du coup, ma famille, mes amis, mon compagnon, mais tout le monde à l'époque s'est vraiment mis autour de moi, puisque l'hôpital m'avait un peu renvoyé à la maison. pour que je tire mon plan. Mais là, en fait, c'est mon noyau proche qui a mis tout en place pour que je ne sois plus seule à la maison, que je puisse me reposer. J'ai eu des contacts avec un psychiatre. Il a fallu deux psychiatres. Donc, finalement, la première, ça n'est pas du tout bien passé parce qu'elle n'expliquait pas. Moi, j'avais besoin de
D'accord.
comprendre ce qui m'arrivait. Donc, elle, en fait, elle n'expliquait rien. Elle me donnait un médicament et puis elle
Ouais.
disait que ça allait aller. Ça, moi, ça, j'ai pas voulu prendre ce médicament. J'ai besoin, en fait, de comprendre avant de prendre un médicament, alors que je n'avais jamais pris de médicament de ma vie.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment des mois et des mois après où j'ai eu la chance de faire la rencontre avec une psychiatre qui m'a vraiment expliqué ce que c'était, les étapes d'une dépression, le fait que j'étais déjà à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape vraiment la plus sévère, que ça allait prendre du temps. Mais là, comme j'ai eu une explication, j'ai compris ce qui se passait, que ce soit d'un point de vue chimique, biologique, émotionnellement, etc. Et là, j'ai eu la confiance en elle et donc j'ai pris ces fameux antidépresseurs qui m'ont aidé, moi, à sortir de là. Je pense qu'il y a plein
D'accord.
de mamans, il y a plein de mamans qui peuvent s'en sortir sans les antidépresseurs, mais quand c'est pris tôt, c'est-à-dire quand c'est détecté assez vite.
Oui.
Moi, voilà, c'était déjà après 7 mois, j'avais eu le temps d'être vraiment, vraiment loin dans l'enfer de la dépression, et donc je n'aurais pas pu ne pas en sortir sans ça. Donc voilà,
Oui,
ça,
donc
c'est.
tu sais quand même écoulé 7 mois entre le moment où tu as commencé à détecter cette dépression et le moment où tu as commencé à prendre des médicaments.
À fait, oui.
Ok, d'accord. Et pendant ces 7 mois, est-ce que tu arrivais quand même à t'occuper de tes enfants? Alors peut-être un petit peu par automatisme, mais est-ce que tu créais quand même du lien, surtout avec ta toute jeune fille Maya? Comment ça se passait entre vous?
C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hauts et des bas. En fait, il y a des moments où en fait on essaye vraiment de se dire ça va aller. Et donc il y avait des semaines où ça allait, où j'arrivais plus ou moins à fonctionner. Mais le problème, c'est comme si on essayait à chaque fois de tirer sur une corde, mais c'est pas très stable. Et donc oui, je savais m'en occuper, j'essayais de créer des liens, mais il y avait toujours des moments où, des jours même, où je n'arrivais pas à sortir de mon lit, où c'était très très compliqué. Jusqu'à un jour où j'ai vraiment eu très 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 peur. C'est comme ça que j'ai rencontré la deuxième psychiatre et que je suis sortie de là. Il faut parfois aller très très bas pour remonter mieux. C'est que avec les garçons ça allait. C'est comme s'ils étaient plus grands et donc du coup je me sentais moins angoissée. Ils dépendaient moins
D'accord.
de moi, donc j'arrivais à faire ce que je devais faire pour eux. Maya, comme elle était encore tout bébé. C'était un bébé très difficile. Et là encore, c'est très compliqué de savoir est-ce qu'elle était difficile parce qu'elle sentait que moi, j'allais pas bien, ou est-ce que moi, j'étais pas bien parce qu'elle était très difficile. C'est
Ouais.
vraiment le serpent qui se mord la queue. On ne sait plus qui ne va pas bien. Et aucune des deux n'allait bien, ça c'est certain.
Ouais.
Donc elle pleurait toute la journée. Et donc, elle, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Dès que je la voyais, j'avais un amour très fort pour elle, mais une angoisse de ne pas savoir m'en occuper. Et donc très
Ah.
souvent, elle a passé beaucoup de temps chez ma maman parce que je me sentais mieux qu'elle soit chez ma maman. J'avais l'impression qu'au moins là, elle était bien. Et voilà. Ma
D'accord.
maman, ça a été très très chouette parce que elle essayait très souvent que Maya soit près de moi et que je puisse passer. Elle s'occupait en fait de l'intendance pour
Oui,
me
d'accord.
permettre à moi d'avoir le côté affectif, émotionnel et de garder ce lien. Donc
C'est
j'ai toujours
génial.
eu la chance de pouvoir garder ce lien. Par contre, il y a un jour, voilà, où ça c'était le summum de la crise, j'ai envie de dire. C'est un jour où mon mari est parti à l'étranger. J'étais très très mal, il savait, donc lui était très triste de devoir me laisser comme ça, mais il n'avait pas le choix. Et il avait téléphoné à ma maman pour qu'elle vienne à midi. Donc je n'avais que 3 heures seule à la maison, de 9 heures
D'accord.
à 12 heures. Mais de 9 heures à 12 heures, dans l'état dans lequel j'étais, c'était l'Himalaya.
Ouais,
C'est très
j'imagine.
compliqué à expliquer, mais c'était, voilà. Et donc, j'ai été conduire mes enfants, mais comme tu disais, en mode pilote automatique. On le fait, mais la tête n'est pas là. Enfin, on le fait parce qu'il faut. Mais donc, je faisais avancer mes jambes, je ne sais pas comment. Je suis arrivée à l'école, je les ai déposés à l'école, mais en rentrant à la maison avec Maya, le fait d'être seule avec Maya dans cet état-là, ça n'allait plus. J'ai téléphoné à mon papa et j'ai dit, papa, il faut que tu viennes. J'ai peur pour Maya. Je ne
Ah
savais
oui.
plus m'occuper d'elle.
D'accord.
Je n'ai jamais eu de pensée où j'allais lui faire du mal. Parce que ça arrive à certaines mamans aussi qui se projettent. Et ça, de nouveau, il ne faut pas se culpabiliser. Parce que c'est très souvent des mamans, c'est d'ailleurs 100% des cas, les mamans ne passent pas à l'acte.
Oui, c'est vrai.
C'est que ce sont des projections. On a tellement peur qu'on imagine des choses. Et du coup, c'est très culpabilisant. Moi, je n'ai pas eu ça, mais par contre, je ne voulais plus vivre. Donc, je me
D'accord,
suis.
tu as eu vraiment des pensées noires, des pensées
Oui.
suicidaires.
Oui. Donc, je
D'accord.
voyais des couteaux partout. Et c'est même pas des pensées suicidaires dans le sens où à ce moment-là, je n'avais pas envie de mourir parce qu'en fait,
D'accord.
on est dans un tel désespoir que pour moi, la mort, ça allait peut-être être encore pire que la vie. Donc, je ne
Ah.
savais même pas me dire je vais me suicider parce que si ça tombe, c'est encore pire que l'enfer que je vis maintenant. Donc, en fait, on se trouve complètement. La mort n'est même plus une option apaisante.
D'accord.
Je me retrouvais prise dans un étau. Et donc, voilà, on est comme paralysé. D'habitude, en fait, il y avait des semaines entières où la plupart du temps, la journée, j'étais dans mon lit à essayer de mettre en petite boule pour que la douleur qu'on ressent à l'intérieur soit moins forte. Là, je ne savais même plus être couchée, assise. Je marchais très vite.
Ouais.
J'étais en mouvement, je ne savais plus m'arrêter. Enfin, c'est vraiment, on n'est plus tout à fait soi-même, quoi. C'est une
Bah oui,
crise
j'imagine.
aiguë. Et donc là, mon papa était très chouette parce qu'il est resté au téléphone avec moi. Donc il a dit, tu ne raccroches pas, je viens. Donc il lui fallait 20 minutes pour arriver. Il a dit, où est Maya? Je lui ai dit, elle dort dans son maxi-cosy. Il dit,
Ouais.
tu restes au téléphone avec moi, j'arrive. Et puis finalement, ma maman nous a rejoints et c'est avec ma maman que j'étais cette fois-ci chez le médecin traitant. Et ça,
OK.
j'encourage vraiment toutes les mamans qui vivent des moments comme ça, d'avoir le réflexe du médecin traitant. Parce qu'en fait, c'est un médecin qui vous connaît, qui sait comment vous êtes d'habitude. Parce que quand on va chez un psychiatre, une psychologue, je ne dis pas, pour certains, ça va peut-être bien se passer. Moi, ce qui s'est passé, c'est que les médecins que j'avais vus ne me connaissaient pas avant. C'était des
Eh
psychologues que
oui.
je n'avais pas vus avant et donc ils n'avaient aucune notion du avant-après. Tandis que le médecin traitant, au moment où elle m'a vue, elle a compris la gravité. Elle
Bah
a
oui,
vu que
bien sûr, elle
c'était
avait
plus du tout
l'historique.
comme avant.
Ouais.
Et donc, elle a vraiment compris que ce n'était pas bénin et que c'était une dépression au stade sévère. Donc, elle m'a mis directement sous anxiolytique. Ça a duré quelques semaines. En fait, le temps que les antidépresseurs agissent, parce qu'un antidépresseur, il faut plusieurs semaines pour que
Et
ça
oui.
agisse.
En
Et
général, on
donc,
dit 3, 4 semaines, c'est ça?
voilà. Donc,
Ouais.
le temps, moi, heureusement, en 2, 3 semaines, ça a été. Mais donc, pendant les quelques semaines, il fallait que je sois sous anxiolytique pour laisser passer cette crise aiguë,
Bien
puisque
sûr.
j'étais vraiment à un stade compliqué. Et donc, c'est vraiment elle qui m'a, voilà, qui a pu déjà mettre les mots sur le fait que c'était très grave, que je n'allais pas m'en sortir sans médicaments et qu'elle a pu me donner le nom de ce psychiatre qui vraiment m'a expliqué et avec qui je me suis sentie en confiance pour commencer un traitement.
D'accord.
Et
Ok,
donc,
on comprend bien, ouais.
je pense vraiment que le médecin traitant, c'est souvent une personne auquel les mamans ne pensent pas. Moi, la première personne que j'ai contactée quand ça n'allait pas, c'était ma gynécologue.
Oui, c'est
Elle
vrai qu'on
m'avait
a
suivie
tendance,
pendant
ouais.
les 9 mois. Donc, moi, je me suis dit, c'est elle que je vais contacter pour dire que ça ne va pas et que je fais une dépression postpartum. Mais la gynécologue, elle n'a pas été méchante en soi, mais pour elle, j'avais accouché d'un petit bébé en bonne santé. Physiquement, j'allais très bien. Donc, elle n'a pas su m'aider. Elle m'a renvoyée vers un service de psychologue. Pour elle, son boulot à elle, c'était fini. C'était tout allait bien,
Ouais.
le bébé allait bien. Et ça,
D'accord.
je trouve que voilà, il y a les gynécologues, mais d'autres médecins aussi, ne sont pas toujours assez
Formés ou au courant?
conscientisés au fait qu'en fait, une maman peut aller bien physiquement, mais à l'intérieur, c'est le tsunami et ça ne va pas du tout. Et moi, même si c'était ma troisième, c'était une dramatique ce qui se passait à l'intérieur de moi, alors que c'était ma troisième, que ma petite fille allait bien et que voilà. Donc ça, je pense que le fait d'aller chez un médecin de confiance qui nous connaît, ça c'est vraiment la clé pour ne pas perdre du temps après pour trouver les bonnes personnes ressources.
Ouais, bien sûr. Et en termes de signaux d'alerte, du coup, si on peut faire un petit récap, ce serait vraiment donc cette sensation de manque de concentration, de troubles du sommeil, de troubles de l'appétit également, c'est ça?
Oui, je pense que c'est ça et c'est surtout l'anxiété, c'est-à-dire le fait
D'accord.
de commencer vraiment à se sentir stressé pour tout, ça c'est
Ouais.
vraiment ça. Le fait que tout semble compliqué, c'est vraiment ça. Des petites
Ouais.
choses où d'habitude, c'est vraiment un détail dans une vie de tous les jours d'aller chercher un paquet de Pampers au supermarché, mais
Ouais,
là, même ça, c'est compliqué.
ouais.
Tout semble une montagne. Remplir les boîtes à tartines des enfants, c'est compliqué. Et donc, chaque chose, et c'est pour ça que finalement, même prendre sa douche est compliqué. Donc, évidemment, manger est compliqué. Tout est compliqué. Et donc, ça, c'est
Ouais.
vraiment pour moi, le signal d'alerte, c'est quand tout devient vraiment trop compliqué et qu'on n'arrive plus du tout à retrouver de la joie. Moi, ce qui s'est passé, apparemment, on m'a expliqué que c'était la dépression, c'était souvent ça qui se passait, c'est que le pire moment, c'est le matin.
Ah.
Donc, c'est-à-dire que le matin, on se réveille et tout, on pense à tout ce qu'il y a à faire, à tout, voilà. Et donc, le matin, c'est la catastrophe. Et alors, moi, c'était le soir, quand les enfants sont au lit, là, j'avais l'impression de retrouver un peu d'espoir. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, la journée est finie, le stress commençait à redescendre la soirée et je dormais assez bien la nuit.
D'accord.
La journée, je n'arrivais pas parce que je pensais à tout ce qui n'allait pas. Mais donc,
Ouais.
voilà, c'est un peu typique aussi, ça, c'est les réveils difficiles, le fait de se lever, d'être écrasé par l'ensemble des choses à faire, alors qu'on n'a pas spécialement de choses à faire. C'est ça qui est compliqué.
Ouais, je comprends.
Donc,
D'accord.
c'est...
Et une fois que t'as pris du coup ces antidépresseurs au bout de 7 mois et qu'ils ont commencé à agir, t'as tout de suite senti que ça allait mieux, que tu sortais un petit peu la tête de ce brouillard, où ça s'est fait vraiment très progressivement. Comment ça se
Moi, j'ai eu la
passe?
chance que ça a été vite. Je crois que je réagis vite aux médicaments, que ce soit à
Ouais.
l'ocytocine ou aux antidépresseurs. Donc, en fait, je n'ai pas dû avoir une grosse dose d'antidépresseurs. Ça a été
D'accord.
assez vite. Et par contre, je continue à les prendre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu tellement, tellement peur de l'état dans lequel j'étais que je n'ai pas encore arrêté. Ça fait 5 ans, enfin ma petite fille a 5 ans, et voilà, je n'en prends pas beaucoup, c'est une petite dose, mais je garde la petite dose de sécurité.
Ouais, de manière quotidienne.
Oui, c'est quelque
D'accord.
chose où c'est comme un traitement qu'on prendrait.
Ouais,
Voilà, maintenant, peut-être qu'un jour, j'oserais m'en passer totalement, mais jusqu'ici, à chaque fois que j'essayais de m'en passer, j'ai toujours eu trop, trop peur. Je crois qu'on a eu une dépression aussi forte. Ce
c'est
qui est
sûr.
le plus compliqué, c'est de gérer la peur qui vient après. C'est-à-dire que
Ouais.
dès qu'on a un petit blues, un petit moment, on panique à l'idée que ça pourrait redevenir aussi grave, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, j'ai la chance que ma psychiatre qui continue à me suivre m'explique bien que je suis totalement guérie, que tout va
Ouais,
bien et que ça n'arrivera
génial.
plus. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend aussi beaucoup d'une dépression, hein. On apprend ses limites, on apprend à mettre
Ouais.
des limites. C'est souvent les personnes qui n'arrivent pas à mettre leurs limites qui ont ce type de symptômes. C'est-à-dire que si on est très à l'écoute, on arrive souvent à détecter les signaux avant que ça ne dégénère. Moi, je n'ai sans doute pas su écouter ça à ce moment-là.
Ouais.
Parce qu'on est pris dans le train-train de la vie par les obligations, parce qu'on veut se montrer fort, parce qu'on veut montrer que tout va bien.
Bien sûr.
Moi, j'avais toujours rêvé de mes enfants. Donc, je veux dire, j'étais là, j'ai toujours rêvé d'avoir 3 enfants, avoir une petite fille, j'ai tout pour être heureuse. On n'a pas
Ouais.
envie de renvoyer une image négative. Et même par rapport à soi-même, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Parce que moi,
Mais oui.
j'étais tout à fait consciente que tout allait bien. Le problème, c'est qu'on sait que tout va bien, mais à l'intérieur de soi, c'est le chaos total. Et donc, ça, voilà. Moi, j'ai eu la chance que les antidépresseurs m'ont vraiment aidée très très vite, mais les antidépresseurs ne suffisent pas. C'est-à-dire que j'ai continué à faire tout un travail sur moi pour comprendre comment on en arrive à ça et surtout quelles sont les choses à mettre en place pour que ça n'arrive plus. Et
Ouais,
c'est-à-dire,
bien sûr.
et les choses à mettre en place pour que ça n'arrive plus, c'est se remettre soi-même au centre, ne pas s'oublier, à prendre du temps pour soi,
Très important.
ne pas attendre avant de déléguer, avant de demander de l'aide. On vit dans des sociétés, voilà, où on est souvent seul. En fait, on rentre de la maternité, on est seul. Moi, mon mari voyageait beaucoup. Mais voilà, il y a d'autres sociétés où ça se passe pas comme ça, où
Eh oui.
on rentre et il y a tout un village pour s'occuper de l'enfant où il y a des mamans qui se retrouvent entre elles, qui cuisinent pour soi, qui cuisinent et que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, la maman est chouchoutée. Et ça,
Ouais.
on n'a plus chez nous. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important de dire qu'il ne faut pas attendre que la maman n'aille pas bien. Si la maman va bien, tant mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, voilà, prendre de ses nouvelles. Prendre parfois l'enfant pour qu'elle puisse se reposer, lui apporter des petits plats et sûrement pas débarquer à 20 copains, foutre le boxon et s'en aller avec toute la vaisselle qui reste. C'est
Ouais,
vraiment
d'accord.
essayer de faire des petites choses qui peuvent soulager en fait. Et c'est ça qui va permettre que la maman continue à aller bien.
Ouais,
Donc.
bien sûr. Et toi, donc en termes de personnes ressources, on va dire que tu as été très épaulée par ta famille, tes parents, ta maman notamment, ton mari aussi, peut-être à partir du moment où il s'est rendu compte
Tout
de
à
la
fait.
gravité de la situation par une
Oui.
psychiatre. Est-ce que tu as
Oui.
vu d'autres professionnels, peut-être, je ne sais pas, un peu de médecine parallèle, de la médecine chinoise, des choses comme ça ou pas du tout?
Ça, je n'ai pas fait. J'ai fait de la kinésiologie. Ça, je trouve ça toujours
D'accord.
très intéressant. J'ai vu une
Ouais.
sophrologue aussi qui m'a aidée. Ça permet aussi de se réancrer dans le concret. C'est pas
Ouais.
mal aussi. Donc, je pense que dans ces cas-là, bah, déjà, j'avais été voir un micro-kiné. Enfin, je pense en fait. J'ai vu énormément de gens parce qu'on est prêt à tout pour s'en sortir quand
Bah
on va.
oui.
Et l'important, je pense vraiment, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne personne, je pense pas qu'il faille continuer à voir plein de gens. C'est-à-dire que
Ouais.
voilà, je crois que j'ai un peu fait l'erreur, mais c'est parce que je n'avais pas encore trouvé la bonne personne d'aller voir trop de personnes différentes. On s'épuise parce qu'il n'y a rien à faire. Ça coûte de l'argent, ça coûte du
Eh
temps,
oui.
surtout quand on a un bébé qu'il faut il faut le faire garder quand on y va, etc. Donc, il y a des choses aussi qui ne sont pas toujours bien mises en place pour ça. Moi, j'ai eu la chance que la psychiatre, elle habitait tout près de chez moi. Les psychiatres, c'est remboursé par la sécurité sociale, du moins en Belgique. Je ne sais pas comment ça
Oui,
fonctionne en
également ici, oui, en
France. Du coup, c'est
France.
beaucoup moins cher. Tandis que les psychologues, moi, la psychologue que
Mais
je
ouais.
voyais, elle me recevait très loin. C'était très cher. Et donc, finalement, moi, ça m'a mieux convenu quelqu'un de plus près et qui coûte moins cher. Il faut
Bah
tenir,
oui.
je pense, compte de tout ça aussi, parce que quand on a voilà, 3 enfants, un bébé, qu'on n'est déjà pas bien, prendre la voiture, faire 1 heure de route pour aller voir le professionnel, payer 60 euros pour 3 quarts d'heure, c'est trop, en fait. Ça
Oui,
rajoute du stress au stress. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver une personne le plus près de chez soi et de ne pas multiplier. En fait, l'important, c'est d'avoir une bonne personne de référence. Après, une fois qu'on va mieux, moi, je continue de temps en temps à découvrir des nouvelles thérapies parallèles parce que c'est toujours intéressant, c'est souvent des chouettes rencontres et qu'on continue à en apprendre sur soi. Je crois qu'on n'a pas assez
on n'a jamais
d'outils pour...
fini, hein,
Voilà, on n'a jamais fini. Mais je veux dire, au moment où on n'est pas bien, multiplier les contacts, je pense que ça nous épuise plus qu'autre chose.
ouais, je comprends, ouais. Et pendant cette période, est-ce que tu t'es rapproché, toi, d'associations de mamans comme l'association Maman Blues qui œuvre à ce sujet, ou c'est plutôt venu sur le tard?
Moi, c'est venu plutôt après.
D'accord.
Par contre, pendant que j'étais pas bien, je me suis rapprochée d'une maman qui avait eu la même chose. Donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a besoin de se rapprocher de quelqu'un qui a vécu la même chose. Donc, moi, c'était la femme d'un collègue de mon mari. Donc, mon mari a pris congé à un moment pour rester avec moi à la maison. Et
OK.
donc, il avait expliqué la situation à son travail. Et là, en fait, les langues se délient. C'est-à-dire que plusieurs personnes
Oui.
à son travail ont dit, ah ben moi, ma femme a eu ça. Ah ben moi, ma femme a eu ça. Les gens n'en parlent pas. Souvent, il y a une honte qui reste quand même autour de ça.
Bien
Et donc
sûr.
là, le fait que lui ait brisé le tabou, ben, ça a permis en fait que un de ses tout bons collègues lui expliquait que sa femme avait eu ça. Et elle, ça a été à un tel point qu'elle a été hospitalisée avec son bébé pendant plusieurs mois. Parce qu'elle a fait
D'accord.
vraiment des tentatives de suicide, donc elle a été aussi très très loin. Et là, en fait, ils nous ont invités chez eux. Et moi, le fait de voir cette maman, de savoir qu'elle avait été très mal au point de faire plusieurs tentatives de suicide, le fait qu'elle ait été hospitalisée avec son bébé et de la voir nous ouvrir la porte avec un énorme sourire, de la voir avec son bébé qui avait là 2 ans et qui rayonnait, ben, ce jour-là, je me suis sentie. J'étais toujours aussi mal, mais je savais que ça allait se finir. J'avais la...
T'as entreperçu une issue, peut-être.
Exactement. Rien que de la voir, elle n'a même pas eu besoin de parler. Juste de
Ouais.
savoir ça, de la voir. Et je pense que c'est pour ça que l'association Maman Blues est importante. C'est toutes des mamans qui sont passées par là. Et c'est toutes des mamans, d'ailleurs, quand on se voit, c'est souvent des mamans toutes assez drôles, assez souriantes, assez vivantes, qui font plein de choses. Et du coup, mais ça redonne le moral, en fait. Ça se
Bah
dit,
oui, carrément.
on peut s'en sortir et on va s'en sortir. Donc à ce moment-là, je me suis pas tournée vers l'association, mais c'était déjà le même principe, ce principe de témoignage de mamans qui sont passées par là. Et donc, du coup, c'est quelques mois après, quand j'ai commencé à aller mieux, j'étais à une projection d'un film qui s'appelle, j'ai oublié maintenant le nom, mais c'est un film d'une réalisatrice belge
Ouais.
sur les difficultés maternelles. Et j'ai été voir cette projection et l'association Maman Blues faisait tout un débat après. Et c'est là que
Ah.
j'ai pris la parole pour donner mon témoignage.
Ah, super.
J'ai entendu la présentation de l'association et du coup, j'ai repris contact avec l'association parce que je me suis dit, bah, en fait, moi aussi, j'aimerais bien être référente pour la Belgique parce que voilà, c'est une association française à
Ouais.
la base. Et à ce moment-là, il y avait déjà deux référentes pour la Belgique, mais du coup, là, j'étais la troisième. Depuis,
Génial.
maintenant, on est cinq. Et donc, voilà, ça donne envie, en fait. Oui, ça m'a donné envie de me dire, ben voilà, moi, c'est une autre maman qui m'a donné l'espoir de dire qu'on s'en sort. J'ai envie de montrer aussi qu'on s'en sort. Et que même si on est très, très mal, que ça peut durer longtemps, on s'en sort. Et ça, c'est
Ouais,
grâce à
c'est
l'association.
génial.
Oui.
Alors toi, ton rôle exactement dans l'association, en quoi il consiste?
Et donc, en fait, chaque référente, il y a des référentes, en fait, par région en France. En Belgique, ben, on est cinq pour la Belgique. Il y a des endroits différents de
D'accord.
la Belgique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir être contactée par les mamans qui le souhaitent. Donc, nos noms sont repris sur le site de l'association. Donc, les mamans peuvent nous écrire un email. Ensuite, on peut échanger par téléphone. Ça dépend un peu des mamans qui préfèrent l'écrit, des mamans qui préfèrent qu'on s'appelle. Les mamans qui préfèrent qu'on se voit, qu'on se rencontre, ça dépend un peu des mamans, de leur contexte, du temps qu'elles ont. Donc ça, c'est un peu le rôle premier. C'est aussi un rôle de sensibilisation des professionnels. Donc on
Eh
rencontre
oui.
également des infirmières, des psychologues, des associations pour essayer justement de faire connaître l'association. Donc ou des unités de maman, bébé, etc., pour vraiment faire connaître l'association. Et ils nous renvoient parfois des mamans qui sont en difficulté et qui ont besoin de pouvoir échanger avec d'autres mamans parce que je pense que c'est complémentaire. Et ça, c'est important de le dire. Maman Blues, ce n'est pas une association médicale, c'est-à-dire qu'on
Oui.
n'est pas des professionnels de la santé, ce n'est pas le but. Donc, on ne va sûrement pas se substituer à une psychologue ou à un médecin. Pas du tout.
Oui.
Donc, on va justement renvoyer les mamans qui sont vraiment en grande difficulté, soit vers un psychiatre, soit vers une psychologue, en fonction un peu du contexte et de l'envie de la maman. Mais par contre, on est là vraiment. C'est le principe de la matrescence, c'est-à-dire que c'est des mamans
Oui.
entre elles qui s'aident et qui se donnent des conseils. C'est vraiment une écoute. On n'est même pas là tellement pour donner des conseils, on est là pour écouter et pour dire qu'on comprend puisqu'on est passé par là.
Eh oui.
Donc c'est vraiment pas, voilà, il faut pas croire que c'est nous qui allons remplacer le suivi médical ou psy, pas du tout, mais c'est complémentaire. Et c'est parfois la première étape pour accepter d'aller vers un psychologue ou une psychiatre, parce qu'il y a beaucoup de mamans ou de femmes. Moi c'était un peu le cas où voilà, moi comme j'avais toujours été très bien, c'est pas toujours facile en fait de se dire,
Eh
ben, je vais
oui.
aller voir un psychiatre, parce que on a toujours été bien et on associe la psychiatrie à quelque chose de très négatif,
Oui, bien sûr, à de la folie.
la folie, etc. Et ça fait peur.
Ouais.
Or, en fait, moi, pour avoir vécu ça, j'ai tout à fait un autre regard sur la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on peut tous sombrer, c'est-à-dire qu'il y a la frontière entre je vais bien, je vais pas bien, elle est très, très
Et
fine, en fait.
fine,
On
mais
peut tout
oui.
à fait se trouver vite de l'autre côté de la barrière. Donc, pour moi, c'est justement la sensibilisation à toutes les maladies mentales, quelles qu'elles soient. C'est aussi important que les maladies physiques. Donc, les urgences psychiatriques, où moi j'ai été, on m'a remballé à la maison en me disant ben, revenez dans 2 jours, vous aurez un rendez-vous avec un psychiatre. Ben, c'est comme de dire à quelqu'un qui arrive aux urgences d'un hôpital avec du sang qui dégouline partout et lui dire, ben, revenez demain, ça n'a aucun sens. La notion d'urgence, quand on parle de maladie mentale, elle est aussi vitale que des urgences physiques. On
Et
ne
oui,
comprend
et le
pas
problème, c'est que ça ne
quelqu'un.
se voit pas. Donc c'est souvent
C'est ça.
sous-considéré, alors que c'est
Tout à
tout aussi
fait.
important.
Tout à fait. Donc voilà,
Okay.
ça c'est aussi le rôle de l'association, c'est de sensibiliser les professionnels à la thématique des difficultés maternelles.
C'est génial, en tout cas, ouais, bravo de t'être investi, toi, dans cette œuvre-là, dans cette association-là, pour à ton tour aider. Les mamans, je trouve que de donner, d'apporter une écoute comme ça bienveillante de la part d'une femme qui a traversé ça, je pense que c'est vraiment une très belle béquille sur laquelle s'appuyer pour les mamans qui sont elles-mêmes en train de traverser une période de dépression du postpartum,
Oui, ben
ouais.
en tout cas, c'est très enrichissant parce que voilà, on a envie de se rendre utile. Et pour nous aussi, je pense que c'est essayer de transformer quelque chose d'aussi sombre, une étape tellement sombre dans nos vies, en quelque chose de beau et de positif. Je pense que ça, c'est aussi ce qui nous rapproche toutes, en fait, dans cette association. On n'a
Ouais.
pas vécu ça pour rien. On n'a pas envie d'avoir vécu
Ouais.
ça pour rien. Donc voilà.
C'est une belle revanche. Est-ce que toi, tu en as parlé à tes deux grands-enfants, tes fils, hein, qui étaient quand même déjà un peu plus âgés que Maya? Est-ce que tu leur en as parlé de ta souffrance? Comment tu leur as expliqué? Ou t'es plutôt restée assez secrète sur le sujet?
Je pense qu'ils étaient encore fort petits. Enfin, le plus
Ouais.
grand avait 5 ans quand j'étais pas bien.
Oui.
Le
Ouais.
petit avait 3 ans. On leur a dit, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que j'étais plus la même, parce que j'étais une maman toujours très active. Et là, ben, parfois, j'étais dans mon lit pendant des heures. Maman devait se reposer. Donc là, en fait, on leur a expliqué que j'étais pas bien, que c'était compliqué, que je me sentais triste à l'intérieur, mais que ça allait aller, que c'était pas lié à eux. Ça, c'est important aussi de le
Oui.
dire, que c'est un
C'est pas de leur
ressenti qu'on
faute.
a, mais ce n'est pas de leur faute.
Oui.
C'est une maladie. C'est vraiment, en fait, la dépression, c'est une maladie. Donc, il faut
Eh oui.
l'expliquer comme ça. Moi, d'ailleurs, la psychiatre m'avait expliqué, ben, vous, c'est un peu comme une grippe du cerveau. Il y a les grippes
Ah
normales,
ouais.
les grippes comme on entend, et puis il y a la grippe du cerveau. C'est aussi des choses qui se passent dans le cerveau. C'est pour ça que l'antidépresseur, ben, voilà, ça vient apporter de la sérotonine là où il n'y en a plus. Et donc d'expliquer aux enfants que voilà, c'est une maladie, que je suis suivie par un docteur, que ça va aller. Je pense que du coup, quand on en reparle maintenant, ils ont même presque oublié. Leur
Ah oui.
quotidien n'a pas été impacté. C'est-à-dire qu'ils ont eu
Non.
la chance de continuer à être à la maison. Je n'ai pas dû être hospitalisée. J'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison. Donc, ils continuaient à me voir tous les jours. Comme mon entourage s'occupait du logistique, moi j'ai pu continuer à leur lire la petite histoire le soir, à garder le peu d'énergie
Super.
qui me restait pour le côté affectif. Donc ils n'ont pas manqué de ce côté affectif, de moments de présence.
Ouais.
Et donc je leur en ai toujours parlé et je leur en reparle. D'ailleurs, voilà, je retourne de temps en temps chez la psychiatre pour être sûre que tout va bien. Ça reste une personne ressource pour moi. Ils le savent très bien. Et donc, eux n'ont pas, voilà, eux ne s'en souviennent pas vraiment. Par contre, avec la plus petite, j'essaye d'en parler un peu plus.
Ouais.
Et il y a un lien qui n'est pas encore réglé tout à fait avec elle. C'est-à-dire que le lien est
D'accord.
fort, mais il est peut-être un peu trop fort. C'est-à-dire que c'est un
Ah.
lien très, très fusionnel, comme si on avait des choses toutes les deux à rattraper.
Ah oui, d'accord. Ouais, ce manquement qu'il y a eu peut-être pendant cette période où tu
Moi,
n'étais
je crois
pas
que voilà,
au
oui.
top, en effet, voilà, il y a peut-être une petite session de rattrapage à avoir, et ce qui expliquerait ce lien très très fort entre vous
Voilà,
deux.
donc ce n'est pas négatif, il y a beaucoup d'amour, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment fusionnel. Voilà, elle a 5 ans, ça va mieux, je pense que le temps va aider aussi. Mais donc, voilà, il n'y a rien à faire, c'est des choses qui marquent quand même au niveau de
Ah
l'attachement.
oui.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on insiste auprès de l'association pour dire que ça, de prendre ça en charge au plus tôt. Parce que si voilà, ce souci qu'on peut traverser dure quelques semaines ou quelques mois, ou parfois, il y a des mamans qui arrivent chez nous, l'enfant a déjà 2 ans, 3 ans, parce que ça n'a pas été pris en charge, parce qu'elles ne se sont pas rendues compte, mais le lien, là, va souffrir encore beaucoup plus. Donc moi, j'ai eu la chance que le lien se soit créé, parce que j'ai été entourée, etc. Et parce que le lien s'est fait, ça, c'est parfois, ça ne s'explique pas. Il y a des liens qui se font plus facilement, mais il y a des mamans pour qui le lien est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a rien à faire, un accouchement qui se passe très mal, où on garde parfois des séquelles physiques aussi,
Et oui, bien sûr.
on peut parfois inconsciemment en vouloir à son bébé.
Et oui.
C'est comme ça, c'est-à-dire que notre vie a changé, on n'est plus la même, et du coup, il y a un lien qui peut parfois être compliqué à construire. Et donc, au plus tôt on trouve les professionnels qui vont pouvoir nous aider à recréer ce lien, mais au mieux ça se passera. Si on laisse les choses dégénérer, ça se passera, mais ça prendra beaucoup plus de temps.
Et ouais,
Donc,
bien sûr, ouais.
voilà.
Ok, et pour l'entourage, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui nous écoutent, des conjoints, des coparents, une sœur, une copine, qui connaissent une maman comme ça en situation de détresse, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, elles, à leur niveau, pour aider leurs proches?
Et je pense que la première chose, c'est vraiment déjà poser la question. Comment tu vas?
D'accord.
Parce que souvent, en fait, c'est vrai, on vient à la maternité, tout le monde est sur le bébé,
Le
comment
bébé.
il va, et on oublie parfois la maman. Parce qu'il y a le côté, voilà, physique, est-ce que tu vas bien, etc. Mais il y a le côté, voilà, qu'est-ce que ça provoque chez toi au niveau émotionnel? Qu'est-ce que c'est poser la question, parce que je pense que la plupart des mamans qui ne vont pas bien, elles ne demandent qu'à parler. C'est simplement qu'elles n'ont pas, souvent, on ne leur pose même pas la question.
Ouais.
On va chez la gynécologue après 6-8 semaines. Et moi, je sais que pour mon premier, la seule question, c'était est-ce que vous avez repris les rapports
Les
sexuels?
rapports, mais oui, on a
Et
tous
quand
eu
j'ai
cette
dit
question.
non, parce que j'avais pas envie, parce que j'avais
Ouais.
encore mal à la cicatrice, elle m'a dit, ah, mais il faudrait pas en plus que votre mari s'en aille, parce qu'il y a beaucoup de maris qui s'en vont s'ils n'ont pas ce qu'ils... Ben, je dis, moi,
Ah oui,
les
ok.
choses, on en est encore là. C'est-à-dire que, donc moi, je suis repartie de là en me disant, bah merde, et moi, on n'a pas parlé de moi. Comment
Oh
moi,
là là, c'est fou.
je vais, donc je dois rentrer, et en plus, je dois me forcer, voilà. Donc la première chose, je pense, c'est vraiment poser des questions, demander comment elles vont. Et souvent, les mamans vont dire. Et alors, être à l'écoute de la fatigue, devoir aider de manière concrète par des petites choses. Ça peut être simplement apporter, moi j'ai des copines comme ça, elles m'ont apporté une petite lasagne qu'elles avaient fait à la maison, une en plus pour moi parce qu'elles avaient cuisiné.
C'est
C'est des petites
génial.
attentions, mais qui permettent d'aider
Oui.
concrètement dans le quotidien d'une maman.
Mais oui, c'est hyper important, en effet, ouais. D'être là avec des actes
Voilà.
concrets,
Ouais. Et alors surtout déculpabiliser vraiment, parce que c'est
ouais.
pas quelque chose qu'on choisit. On ne choisit pas de rester au fond de son lit. On ne choisit pas de ne plus avoir d'énergie ou de. C'est quelque chose pour lequel on se bat, et donc on s'en veut déjà suffisamment soi-même que pour avoir des réflexions de dire il faut te bouger. Non, on a envie de se bouger. Maintenant, il faut nous aider à trouver les bonnes personnes. Et donc c'est en parler et essayer de renvoyer vers des personnes de contact. Donc, si des gens connaissent l'association Maman Blues, eh ben c'est dire, écoute, il y a une association avec des mamans qui ont vécu ça et on est là pour ça, pour pouvoir aiguiller les mamans, leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'on a ce catalogue, nous, de professionnels de la santé qui sont conscientisés à cette thématique. Et ça permet de gagner un temps fou et de ne pas devoir aller voir tel ou tel chez qui, parfois, on se renvoie des claques. Voilà, moi, mon séjour à cet hôpital psychiatrique, il aura duré quelques heures puisqu'on m'a renvoyée chez moi, ça a fait pire que bien. C'est-à-dire que ça m'a aidée à faire comprendre à mon mari qu'il y avait un vrai problème parce qu'on ne va pas dans un hôpital psychiatrique quand tout va bien. Donc là, il y a une vraie prise de conscience de sa part. Mais au niveau médical, je n'ai pas du tout été soutenue. Donc je pense que ça fait gagner du temps d'avoir directement les bons professionnels.
Ouais, d'accord. Ok, bah écoute, merci, merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Aujourd'hui, là, 5 ans après, comment tu te sens?
Mais très bien, vraiment. C'est,
Ouais.
je pense, et c'est ça qui est un peu la touche positive, parce qu'évidemment, quand on parle de dépression, c'est très lourd, c'est pas, voilà, c'est pas réjouissant. Mais par contre, je ne regrette pas cette dépression. C'est-à-dire que ça nous,
Oui.
je pense qu'on n'est pas la même. Je me sens même mieux maintenant qu'avant. C'est-à-dire que c'est
D'accord.
comme si, je pense qu'on découvre une facette de nous qu'on ne connaissait pas. Je pense qu'on s'autorise à être soi-même. Je pense souvent que, je ne sais pas, moi, voilà, dans la trentaine, on est souvent à la course un peu. Il faut rencontrer l'homme de sa vie, faire des enfants, avoir un chouette boulot. Et en fait, on est beaucoup dans le faire et pas tellement dans comment on se sent, nous, dans l'être, c'est-à-dire se sentir bien, qu'est-ce qui nous fait vraiment, qu'est-ce qui nous nourrit au quotidien. Et ça, c'est la dépression, ça nous oblige à faire face à ça. parce que ça prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose dans notre fonctionnement qui n'allait pas, où on ne s'écoute pas suffisamment, où on n'est pas assez à l'écoute. Et donc le fait de passer par un moment comme ça nous oblige en fait à se remettre au centre et à se poser des questions pour nous-mêmes en fait. De se dire mais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est important pour moi, prendre du temps pour soi, mettre ses limites, et donc arrêter d'être dans une espèce de course comme ça où on est parfois trop souvent en mode automatique dans tout ce qu'on a à faire dans une journée et qu'on ne se pose pas les vraies questions de ce qui est important pour nous dans la vie, tout simplement. Donc maintenant, voilà, je suis beaucoup plus en paix à ce niveau-là.
C'est génial.
Et je pense que je suis même une meilleure maman, c'est-à-dire qu'avant j'étais beaucoup plus, voilà, allez, on se lève tôt, on fait ci, on fait ça, les horaires. Maintenant c'est plus du tout ça. Maintenant on prend tout beaucoup plus cool. On ne vit qu'une fois, la vie est courte, on en profite et donc on est beaucoup moins dans la performance, les horaires, beaucoup plus d'en prendre le temps, de faire les choses, de profiter de la nature, d'aller se promener. La maison est en bordel, on s'en fout, on plaque tout, on va profiter du soleil dans le jardin. Et je pense que les enfants, ça leur fait du bien aussi. Ça leur
Bah
montre,
oui.
on arrête d'être dans la course et on essaye de remettre les choses importantes au cœur de nos vies. Donc voilà, je pense que tout n'est pas mauvais avec une dépression.
Ouais, bah c'est génial justement que tu aies pu aujourd'hui, là, 5 ans après, en tirer du positif. Je trouve que c'est une très belle preuve de courage de ta part et aussi une belle lueur d'espoir que tu offres sûrement à toutes les mamans qui sont en train de nous écouter et qui traversent actuellement une période difficile comme toi tu l'as connue. En tout cas, merci beaucoup, Marie. C'était un témoignage hyper, hyper riche. On voit que tu as une grande lucidité, une maturité sur le sujet qui fait plaisir à entendre. Et j'invite toutes les personnes, toutes les femmes qui nous écoutent, qui sont actuellement en dépression, qui pensent peut-être l'être ou qui connaissent quelqu'un qui l'est, de se rapprocher d'associations hein, comme celle de Maman Blues qui œuvre au quotidien pour aider ces femmes-là. Et bravo pour tout ce travail. C'est vraiment génial. Merci beaucoup.
Ça va, merci à toi. Merci à toi de parler de ce sujet-là. C'est comme ça qu'on arrivera à en parler et que ce ne soit plus un tabou. C'est vraiment
Et ouais,
important, je pense.
de libérer la parole, en effet, c'est essentiel. Déjà pour connaître la dépression du postpartum et
Oui.
ensuite pour pouvoir mieux l'identifier si jamais ça nous arrive.
Exactement.
Merci beaucoup Marie, je te souhaite plein
Merci
de bonnes
beaucoup.
choses avec ta
Merci à
famille, ta
toi.
vie et puis bravo pour ce courage.
Merci beaucoup. Merci.
Je suis tellement fière que ce soit Marie qui soit venue représenter ce sujet de la dépression du postpartum sur le podcast de Supermama. Son récit clair, limpide, transmis avec beaucoup de maturité pourra aider, je l'espère, grand nombre d'entre vous qui vous sentez peut-être seuls ou incomprises. Je vous invite également à vous rapprocher et à soutenir des associations telles que Maman Blues qui œuvrent au quotidien pour les femmes. Vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'aide, mais aussi devenir bénévole si vous souhaitez aider à votre tour. Merci également au Podcaston hein, d'exister, bien sûr. C'était un honneur pour moi d'en faire partie cette année et de mettre en avant Maman Blues. Sur ce, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode un peu plus classique avec le récit de la jolie Clarisse. À très vite!